Chapitre 4e. Une représentation dramatique à la cour de Navarre. Henri et Marguerite, ayant quitté Nérac pour se rendre à Pau, où ils voulaient passer l'hiver, étaient arrivés sur ces hauteurs pittoresques, coupées par un ravin, sur lesquelles la ville s'élève, et étaient entrés dans le château. La reine s'était plu à l'orner des plus magnifiques jardins qui fussent alors en Europe, et elle aimait à s'y promener en causant avec le cardinal de Foix, l'évêque de Tarbes et plusieurs autres personnages distingués qui admiraient son esprit et sa grâce. Toutefois, ces ecclésiastiques lui causaient souvent beaucoup de fâcheries. Entourée de personnes qui faisaient régulièrement rapport à François Ier, surveillée par le roi son époux et par les dignitaires de l'Église qu'elle avait à sa cour, cette femme pieuse mais faible pliait sous le poids. Elle commençait sa journée en assistant au service du matin dans l'église catholique de sa paroisse. Puis elle réunissait secrètement l'après-midi dans sa chambre les évangéliques de la cour, la petite troupe des exilés et quelques hommes ou femmes du peuple qui, s'avançant avec gaucherie, s'asseyaient timidement sur les beaux meubles de la reine. Roussel, Lefebvre ou un autre ministre faisaient une exhortation et la petite assemblée se retirait en sentant que Dieu avait été réellement présent au milieu d'elle. Un jour, quelques-uns de ses fidèles demandèrent la scène du Seigneur. La reine fut embarrassée. Elle n'osait la faire célébrer dans l'église, ni même dans sa chambre. Si l'un des cardinaux entrait à l'improviste, Marguerite cherchait, elle crut avoir trouvé ce qu'il lui fallait. Dans le talus du château était une assez vaste salle appelée la Monnaie, lieu souterrain et secret où l'on arrivait sans être vu. Des domestiques, par ordre de la reine, y dressèrent secrètement une table, la couvrirent d'un linge blanc, y placèrent un bassin où se trouvaient des tranches de pain ordinaire et, à côté, des vases pleins de vin comme des calices. « Ce sont là leurs autels !» s'écrie ironiquement le narrateur catholique. Le jour fixé, tous les fidèles arrivèrent silencieux, émus, et prirent place, non sans quelque crainte d'être découverts. La reine, oubliant les pompes du Louvre, se plaça au milieu d'eux comme une simple chrétienne. Roussel parut, mais sans costume sacerdotal, et se plaça devant la table. « Ceux qui croient qu'il n'y a dans le sacrement qu'un vain signe, dit-il, ne sont pas de l'école de la foi. » Il prit du pain ordinaire, dit le narrateur catholique indigné, et non de petites hosties rondes sur lesquelles se trouvent des images. « Souvenez-vous, reprit Roussel d'une voix grave, que Christ a pris mort et passion pour nous. » Puis il distribua la coupe sans faire le signe de la croix. Les fidèles, recueillis, portant sur leurs traits une expression céleste, sentaient la présence du Seigneur. Un même Christ habitait dans le ministre et dans tout le peuple. Il ne parut ni espion ni cardinal, et les communiants, après avoir déposé une offrande pour les pauvres, se retirèrent en paix. Malgré le mystère, on parla de cette scène dans le château. Le roi de Navarre en fut tout saisi. Homme léger, vif, même violent, et sujet à certains retours mondains, il commençait à s'impatienter de la piété de sa femme et surtout des mendications dans la cave. Il était habituellement de mauvaise humeur et trouvait à redire à tout ce que Marguerite faisait. Un jour qu'il rentrait au château après une partie de chasse, il demanda où était la reine. On lui dit qu'un ministre faisait une exhortation dans ses appartements. À ces mots, le feu monta au visage du roi. Un fidèle serviteur courut prévenir la reine. Ministre et fidèle s'échappèrent par une issue de derrière. À peine était-il sorti qu'Henri entra brusquement. Il s'arrêta, regarda autour de lui, et ne voyant que la reine, émue et tremblante, il lui appliqua un soufflet en disant « Madame, vous en voulez trop savoir !» Puis il la laissa confuse et indignée. Cet affront fait à la dignité de la famille royale de France ne passa pas inaperçu. François Ier rudoya fort Henri d'Albret, dit Brantôme. Marguerite, désirant gagner son mari et être agréable à la cour, résolut d'y faire représenter quelques drames bibliques. Peut-être pourrait-elle atteindre de cette manière ceux qui ne voulaient pas venir au prêche. Elle prit pour sujet la naissance du Sauveur, et, son poème achevé, elle en distribua les rôles à quelques demoiselles nobles. Ces représentations bibliques, qui déplaisaient à Calvin à cause de leur forme théâtrale et aux clergés romains à cause de leurs vérités évangéliques, charmaient le parti mixte et appartiennent à l'histoire religieuse de l'époque. Nous ne pouvons les passer sous silence. Marguerite transforma en théâtre la grande salle du château. On y mit des décors et peu après Noël, des affiches annoncèrent la représentation de la nativité de Jésus-Christ. Le jour venu, la salle était comble. Au premier rang, sur l'amphithéâtre, étaient le roi et la reine. Celle-ci portait une simple robe fourrée de martre et la cape à la béarnaise. Puis venaient les cardinaux de Grammont et de Foix et d'autres membres du clergé. Autour du couple royal se trouvaient les inséparables dames d'honneur de Marguerite, Mademoiselle de Saint-Pater, distributrice habituelle de ses aumônes, Mademoiselle de la Battenage, Blanche de Tournon, Françoise de Clermont, Madame d'Anvangour, la plus grande écouteuse de la cour, le chancelier, les chambellans et les aumôniers. Ses maîtres d'hôtel, elle en avait 10, ses écuyers, ses filles, elle en avait 38, ses secrétaires, elle en avait 17, et ses valets de chambre, elle en avait 20, étaient en partie présents. Enfin, les invités du dehors occupaient des places selon leur rang. Rarement, une première représentation excita plus la curiosité. Le premier acte commence. La scène est à Nazareth, dans la pauvre maison d'un charpentier. Un homme dans la force de l'âge et une jeune femme s'entretiennent ensemble. Un édit vient d'être publié sur la place de cette bourgade, ordonnant que chacun se rende dans la ville dont il est originaire pour y être enregistré. Or, ces pauvres gens sont de Bethléem, et Bethléem est loin de Nazareth. La femme doit bientôt devenir mère, et l'homme est inquiet des suites du voyage. Cette jeune Israélite, dont le doux et paisible visage annonce la sérénité d'une âme pieuse, lui dit alors « Danger n'auront, je vous le certifie, car le puissant qui en moi fructifie tient en sa main et la mère et le fruit. » La scène change. On est à Bethléem. Il fait nuit. Ça et là brillent quelques feux et quelques lumières à travers les fenêtres des maisons. Le même homme et la même femme, ils s'appellent Joseph et Marie, arrivent de Nazareth après un fatigant voyage. Joseph, encore soucieux, dit « Il est tard et la nuit est venue. Allons tout droit là où je vois du feu. » Il heurte, il demande au maître de la maison de les recevoir. Celui-ci les regarde avec mépris et leur dit qu'il ne veut loger que des riches. Joseph va un peu plus loin et frappe à une nouvelle porte. « Vous plairait-il loger, moi et ma femme, car entendez que cette pauvre dame est sur le point de son accouchement ?» L'hôte jette sur eux un regard de dédain comme le premier et répond qu'il ne veut loger que des nobles. Joseph ne perd pas courage et, montrant un troisième bourgeois à Marie, il dit « En voilà un qui a bien bon visage. » Il s'adresse donc à lui. Mais cet homme est un bon vivant, il est offusqué de l'air soucieux de ce voyageur. « Il veut, dit-il, danses et jeux et femmes et banquets. Cure n'avons de gens pleins de tristesse. Prenez ailleurs, mes amis, votre adresse. » Joseph pousse un soupir et dit « Allons plus loin, et Dieu nous montrera où il lui plaît que nous fassions demeure. » Mais, fatiguée par le voyage, inquiète de son état, Marie commence à changer de visage. « Là, mon ami, je vois approcher l'heure où naître doit le fruit tant désiré. » À ces mots, Joseph, alarmé, cherche autour de lui et découvrant enfin une pauvre étable où l'air pénètre de tous côtés, il propose à Marie d'y entrer. « Je prendrai peine de vous garder de l'injure du vent. » Il établit aussi bien qu'il peut la jeune femme dans ce réduit et se prépare à aller dans la ville chercher ce dont elle a besoin. Marie, « Allez, ami, seul ne me laissez, car où Dieu est, j'ai compagnie assez. » Marie, restée seule, adresse au Père Céleste une touchante prière, puis, succombant de fatigue, s'étend sur la paille et s'endort. La scène change et se transporte dans le ciel. Les regards du Seigneur, qui contemple les fils des hommes, descendent sur la terre et s'arrêtent avec bonté sur Marie, dont le sommeil est paisible et doux. Puis, comme le grand moment approche, il ordonne aux anges de quitter le ciel et d'annoncer aux hommes la nouvelle d'une grande joie. Il donne à chacun d'eux son message. Les uns iront vers Marie, d'autres iront vers Siméon. Le plus humble dit « Et moi, Seigneur, j'irai chercher de tous le plus petit et lui dirai qu'il est grand devenu, puisque le grand s'est fait petit tout nu. » Aussitôt, des hymnes de louange éclatent dans le ciel. À toi toute gloire, ô tout-puissant Seigneur. Et les anges partent. La scène change. On est de nouveau dans l'étable de Bethléem. Marie s'est réveillée, mais elle est encore seule. Les plus étonnantes pensées agitent son cœur. Le mystère de Dieu qu'elle entrevoit l'étonne et la confond. Ouais, me voir mère, étant vierge et pucelle, mère d'un fils qui tout autre précèle, vrai homme et vrai Dieu, Emmanuel, du Père, ô fils très cher, pourrais-je bien de mes mains vous toucher, même ma bouche à la vôtre approcher ? En ce moment, les anges envoyés de Dieu arrivent. Ils pénètrent dans la chétive étable. Ils la remplissent de leur gloire et chacun salue à sa manière la pauvre Vierge de Nazareth. L'un dit « Je te salue, ô dame bienheureuse, mère du fils dont tu es amoureuse. » Un autre, dont le caractère paraît être l'humilité, s'adresse à l'enfant comme s'il était déjà né. « Petit enfant, ne veuillez épargner, moi très petit, car, soit pour vous baigner ou pour chauffer vos draps en votre lit, à vous servir je prendrai grand délit. » Sur ces entrefaites, Joseph revient avec les provisions qu'il a achetées. Il s'afflige de ne pouvoir accueillir dignement l'enfant du ciel. Mais, décidé à donner tout ce qu'il a, il s'avance vers l'étable. Tout à coup, il s'arrête, étonné. Il regarde. Une divine lueur remplit ce réduit modeste et resplendit tout alentour. « Quelle lumière voilà derrière ! Je suis comme un homme écarté !» Il m'est avis que je ne vis jamais semblable clarté. Il s'arrête sur le seuil de la porte, il regarde. Les anges ont disparu. Il dit « Je vois Marie, non pas Marie, mais d'un visage très joyeux. Mais que voit-elle, cette pucelle? Toujours en bas, elle a les yeux. » Joseph regarde avec plus de soin de la porte où il est resté immobile et découvre Jésus qui vient de naître. « Oh, c'est l'enfant !» Le bon charpentier ne sait ce qu'il doit faire. Il n'ose s'approcher et pourtant il ne peut demeurer éloigné. Un combat se livre dans son âme. « Je demeurerai ?»« Non, j'entrerai !» Enfin, Joseph s'avance. Il contemple l'enfant, se met humblement à genoux devant lui, l'adore et le baise. « Par ce baiser, veux apaiser mon cœur brûlant de charité. » Qu'il est plaisant, beau et luisant. Aussi, il est la vérité. Marie est inquiète. Elle regarde l'enfant si faible, si tendre, et se désole de n'avoir rien pour l'envelopper. Car la nuit est un peu trop fraîche. Joseph, je vais allumer cette mèche. Il allume la lampe. Où le mettrons-nous ? En la crèche, meilleur lieu n'est au déversoir. Le premier acte était fini et les spectateurs exprimaient l'intérêt qu'ils prenaient à ce drame si sérieux et si saint. Les cardinaux de Gramont et de Foix, eux-mêmes, n'y trouvaient rien de contraire aux doctrines de l'Église. Comme on aimait beaucoup alors quelque chose de divertissant, le mot pour rire ne manqua pas. On vit paraître dans l'entracte des personnages comiques, surtout un pauvre moine qui faisait les frais de la farce. Ceci n'était pas de la composition de Marguerite. Les catholiques eux-mêmes ne l'en accusèrent pas. Bientôt, les bouffons se retirèrent et le drame recommença. La scène se trouvait dans les champs qui entouraient Bethléem et où des bergers et des bergères gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Un berger, fatigué du travail, un autre d'avoir chassé le loup, se sont endormis. Des bergères ont fait de même. Mais un berger et une bergère veillent et se communiquent leurs pensées. Troisième berger. Je ne sais qui me fait veiller, mais je ne saurais trop sommeiller. Ce n'est pas le soin du troupeau, car j'ai mon parc fermé et clos. Mais j'ai dans mon cœur une joie qu'il me semble toujours que je vois quelque nouvelle bien plaisante. En attendant, regarderai du ciel les étoiles luisantes. Il contemple le firmament. Première bergère. Mais dites-moi, frère pasteur, en regardant la haute hauteur du ciel, qu'est-ce que tu contemples ? Troisième berger. J'admire le haut créateur de toutes choses le facteur et duquel nous sommes le temple. Première bergère. Pasteur, qu'est-ce qu'il a promis au patriarche et ses amis qui l'ont si longtemps attendu ? Troisième berger. Il a promis le vrai Messie, son vrai fils, par qui toute vie et salut nous sera rendue. Première bergère. Mon Dieu, que cette heure me tarde ! Troisième berger. Oh, viens, Seigneur, plus ne retarde ! Tout à coup, une grande lueur illumine les champs de Bethléem et une voix céleste dit « Réveillez-vous, pastoureaux, voici le jour où Dieu montre en fait nouveau son grand amour. » Les bergers et les bergères qui dormaient se réveillent. Ils regardent et aperçoivent des anges entourés d'une gloire céleste. Premier berger. « Oh Dieu, quelle clarté je vois ! J'en sens si grande crainte en moi !» Deuxième bergère. « Je ne puis regarder entière cette parfaite et vive lumière. » Premier ange. « Ne craignez point, pasteur. Voici, je vous annonce grande joie en vos cœurs. Aujourd'hui vous est né le Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'il est écrit. Ceci vous sera signe. Trouverez l'enfant digne, enveloppé de draps, dedans la crèche mis, le salut qu'ici-bas Dieu vous avait promis. » Tous les anges entonnent ensemble le cantique de louange. « Gloire soit au Dieu des cieux !» Deuxième berger. « Allons, courons, et voyons cette chose où des mortels l'espérance est enclose. » Troisième berger. « En la maison, et si humble et si basse, il y aura quelques fentes ou crevasses par où nous verrons notre Seigneur et Maître, si nous trouvons fermées portes et fenêtres. » Les bergers et les bergères s'entretiennent en allant de l'accueil qu'ils veulent faire au Messie, avec une naïveté peut-être excessive, mais qui ne manque pas de grâce et de naturel. Premier berger et première bergère. Portons à leur pauvre ménage de nos biens à grand abandon. Troisième berger. Je lui porterai mon fromage dans cette vaisselle de jonc. Deuxième berger. Et moi, ce grand pot de l'étage. Marie le trouvera bon. Premier berger. Moi, je lui donnerai ma cage où est mon petit oisillon. Deuxième berger. Ce fagot sera son chauffage. Il fait froid en cette saison. Troisième berger. Mon flageolet pour son usage. L'enfant en aimera le son. Première bergère. Je le baiserai au visage. Deuxième berger. Non, c'est bien assez au talon. Les bergers et les bergères quittent les champs et se rendent en hâte à Bethléem. La scène est transportée dans cette ville. Les bergers et les bergères arrivent et cherchent le lieu où se trouve l'enfant. Deuxième berger. Ah, ce n'est pas dans cette maison peinte où habiter veut la personne sainte. Troisième berger. Ce triomphant palais n'est pas celui dont le petit veut faire son étui. Première bergère, regardant soigneusement. Voici un lieu, dans ce rocher étrange, serait-ce point cette honorée grange ? Les bergers et les bergères s'approchent, et regardant à travers les fentes de la pauvre étable, ils découvrent Marie et Jésus. La seconde bergère s'écrie dans son ravissement. Voyez l'enfant, et celle qui l'allaite ! Troisième bergère. « Oh, le poupon, regardez comme il tète !» Deuxième berger. Mais appelons cet homme que voilà pour nous ouvrir.
À Joseph.
Oh, monseigneur, holà !
Joseph.
Qui sont ces gens qui de dehors font bruit ?
Premier berger.
Cherchons du ciel le véritable fruit.
Marie.
Si Dieu leur a ce grand cas révélé, il ne faut pas que par nous soit scellé, car aux croyants il faut le Christ montrer. Ouvrons-leur lui.
Joseph allant leur ouvrir la porte.
Vous pouvez bien entrer.
Les bergers et les bergères s'approchent avec respect, et quelque chétif que l'enfant paraisse, ils reconnaissent en lui la hauteur de la majesté éternelle et l'adorent.
Troisième berger. Tu es de Dieu la promise semence au pauvre Adam après sa lourde offense. Abraham crut cette heureuse sentence, David aussi, puis il fit pénitence, et l'un et l'autre en fut justifié.
Deuxième berger.
L'œil voit l'enfant impuissant en présence, mais foi qui croit par sûre connaissance devient notre œil et nous vient exciter de l'honorer, visiter, adorer comme vrai Dieu.
Après l'adoration des bergers, les bergères, un peu curieuses, entourent Marie et rentrent en conversation avec elle.
Troisième bergère. Pourquoi n'a-t-il pas de grands accoutrements d'or et d'argent, rubis et diamants ?
Marie.
Simplicité dont il est amoureux lui fait haïr tout état curieux.
Les premières rougeurs de l'aurore paraissent.
Deuxième berger. Voici le jour, il faut que je retourne.
Première bergère s'approchant de Marie.
Madame, au moins, son petit bout d'orteil pour le baiser, vous plaise me donner.
Troisième bergère.
Nos yeux l'ont vu et nos mains l'ont touché, l'agneau très pur qui ôte le péché.
Tous les bergers et les bergères offrent à l'enfant leurs humbles dons.
Premier berger. Vivre et mourir, voulons en te servant. Vivre sans toi, estimons moins que vent. Adieu, enfant. Le second acte étant fini, un nouvel intermède vint égayer les spectateurs. Les bouffons reparurent et débitèrent plusieurs rondeaux où il se trouvait toujours quelques traits badins, piquants et inattendus, qui excitaient les rires de l'assemblée. Les virelets, composés de vers très courts, aussi sur deux rimes, avaient des refrains dont quelques moines étaient le sujet, qui divertissaient fort les spectateurs. Les cardinaux et autres catholiques qui prenaient plaisir au drame s'indignaient de ces satires. Le troisième acte commença. Satan, qui fait le tour du monde, arrive au-dessus des champs de Bethléem, où les bergers et les bergères sont retournés, et, absorbé dans ses pensées, il se dit « Jusqu'ici, j'ai régné puissamment. J'ai subjugué cette mortelle terre. Sans nul propos, incessamment fait guerre aux dieux d'en haut et vit triomphamment. »
Les bergères, qui ne le voient point, expriment leur joie par des hymnes.
Bergères, vierges et belles, nous devons chanter ici, disant les bonnes nouvelles qui nous ôtent tout souci.
Satan s'arrête, il prête l'oreille, il s'alarme et s'écrie
« Voilà un chant qui me rend tout transi. Quelle nouvelle est-ce qu'ils ont ouï ?»
Les bergères, qui continuent à ne pas s'apercevoir de la présence de Satan, chantent de nouveau
« Une vierge qui est mère, un beau fils à enfanter, qui n'a nul que Dieu pour père. Ceci soit bien haut chanté, du ciel avons l'héritage. »
Satan, écoutant, est toujours plus inquiet.
« Ce secret-là me serait-il caché ? De le savoir sans cesse j'ai tâché. »
Il se déguise, s'approche des bergers sous la forme d'un grand seigneur et leur dit
« D'où venez-vous ? »
Premier berger.
« De voir le Christ, le vrai salut des hommes, par qui, en Dieu, régénérés nous sommes. Vous plaît-il d'y aller, très grand Seigneur ? Je vous serai du chemin en Seigneur. »
Satan.
« Ce n'est pas vrai, c'est rêverie ou songe. »
Deuxième berger.
« Allez le voir vous-même. »
Satan.
« Non, ce Dieu de là-haut, du monde Banakur, je suis du monde le roi.
Venez à moi, nous ferons bonne chère. Mais alors, il faut que vous ne croyiez pas que Dieu descende un si malheureux pas. »
Troisième berger.
« Mon père il est, et mon frère est mon tout. Je suis à lui de l'un à l'autre bout. J'ai Dieu pour moi, jamais l'idolâtrie ne m'ôtera ma céleste patrie. »
Satan.
« Ô insensé, ô fou continuel, êtes-vous Dieu ?»
Premier berger.
« La gloire au Fils d'être Dieu nous laissons. Il nous suffit d'être ce qu'il lui plaît et de savoir qu'il est celui qui est. »
Satan.
« Pensez-vous bien entendre l'Écriture ?»
Troisième berger.
« Nous en faisons humblement la lecture. »
Satan.
« Si votre père était ainsi que vous dites, vous lairez-il ces pauvretés maudites où vous souffrez en grande nécessité ? Ouvrez les yeux, gens pleins de cécité. Avez-vous vu jamais qu'un homme riche laisse son fils comme un désert en friche ? Quel fils de Dieu ! Qui n'a de ses trésors que faim et froid, habits pauvres et hordes ? »
Deuxième berger.
« Plus nous souffrons, plus notre joie redouble. De vos plaisirs ne donnons pas un double. »
Troisième berger.
« Le Christ avons vivant en notre cœur, qui de péché et de mort est vainqueur. »
À ces mots, Satan se trouble, il se rappelle ses anciennes défaites. Il sait que le Fils de Dieu doit l'écraser sous ses pieds. Effrayé, il s'écrie
« Agneau oxy, qui du ciel fit chasser moi et les miens, me viens-tu pourchasser jusqu'ici ? Où trouverai-je place pour éviter la fureur de ta face ?»
Alors la voix mystérieuse de Dieu se fait entendre de nouveau et proclame la victoire de l'enfant nouveau-né.
Du grand Satan, le règne tyrannique est mis à rien par l'agneau innocent qui à la mort et à la croix consent. L'agneau ferait triompher à ma droite. Ange chanté, le voyant élevé par-dessus tous et Satan réprimé.
Alors les anges entonnent le chant de triomphe qui termine l'action.
Gloire soit au Créateur qui s'est fait le destructeur de Satan, la grande bête. Honneur à l'agneau rendons, par qui, ses superbes dons, le Père nous manifeste.
La représentation était finie et chacun se retirait dans l'admiration. Le roi fut sensible à cette condescendance de sa femme. Il fut ravi de cette tragicomédie. Marguerite en profita pour l'amener à entendre quelques exhortations.
Il vint des comédies aux prêches qui se faisaient dans la chambre de la reine, dit un historien du temps.
Tous ne furent pas aussi contents de ces spectacles. Les cardinaux de Gramont et de Foix se retirèrent de la cour, tandis que les chrétiens les plus rigides demandèrent s'il était permis de faire parler les anges et Dieu lui-même. Si Calvin avait poussé de Nérac jusqu'à Pau et avait assisté, non loin des cardinaux, à ce mystère, il eût sans doute blâmé ces représentations qu'il appelait une chrétienté déguisée. Il est temps de suivre ce réformateur.